Mes chers amis, bonjour. Ici Pauline Aignot et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. L'épisode que je vous présente aujourd'hui est vraiment un must pour toute personne intéressée par l'art du service et de l'hospitalité. Je dirais même que cet épisode est un must pour toute personne qui s'intéresse à l'art du dépassement de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur le podcast Thomas Goval, hôtel manager au sein du groupe Katara Hospitality pour le resort Bürgenstock. Avant que je vous parle plus en détail de Thomas, laissez-moi d'abord vous planter le décor et vous parler en quelques mots du Bürgenstock Resort, un lieu en tout point unique que j'ai la chance de connaître puisque j'habite à côté en Suisse. Le Bürgenstock n'est pas qu'un simple hôtel de luxe, il s'agit plutôt d'un des plus grands complexes hôteliers du luxe au monde, l'un des plus célèbres également. Quelques chiffres pour vous donner une idée. Le Bürgenstock, c'est un environnement de 820 collaborateurs. 4 hôtels, 3 5 étoiles pour 383 chambres et suites. 3 résidences pour 67 appartements ou villas. Un centre médical, 2 spas dont un de 10 000 m2. Un golf, 10 points de vente avec donc des restaurants food and beverages comme on dit. Et ainsi que 30 salles de conférences. Imaginez, ça n'est pas juste un hôtel, c'est un empire, c'est absolument immense. À moins de 40 ans, Thomas Goval est le directeur du site du Bürgenstock. Un coup de chance, me direz-vous ? Peu probable, puisque Thomas avait déjà été major de promotion de la célèbre école hôtelière de Lausanne, l'une des plus compétitives et des plus réputées au monde dans le secteur de l'hospitalité. Tout cela alors qu'il n'a aucune racine dans ce monde. Comment expliquer cette prouesse ? Une éducation hors norme, sans doute, un sens du détail qui frôle le perfectionnisme et un véritable attachement à l'idée de service. Cet épisode est pour moi une leçon. Le travail paie, mais on n'a rien sans rien. Et il faut se donner les moyens de ses ambitions. Faire les choses à 100% et même plus, c'est ce qui nous fait toucher les étoiles. Merci Thomas pour ces valeurs. Je vous laisse méditer là-dessus et vous laisse avec cette conversation avec Thomas Goval. Bonjour Thomas.
Bonjour Pauline.
Merci mille fois de m'accueillir chez toi d'une certaine manière au Bürgenstock Resort. Je suis très très heureuse d'être avec toi.
Merci de nous rendre visite, c'est toujours un honneur de recevoir nos invités à tout moment.
Eh bien, je me suis sentie invitée depuis que je suis arrivée et je t'en remercie. Alors, c'est une très belle transition parce qu'évidemment, on va parler de l'art du service. J'aurais envie de commencer par une question un petit peu farfelue. Je voulais te demander, pour qu'on rentre dans le vif du sujet, qu'on comprenne un peu l'ampleur de ce métier passion, quelle est l'anecdote la plus folle, l'une des anecdotes les plus folles que tu aies vécues en tant qu'hôtel manager, par exemple au Bürgenstock, je suis sûre que tu en as des milliers, mais s'il y en avait une, laquelle est-ce que ça pourrait être ?
Oh, alors, il y en a beaucoup, mais comme tu as utilisé le mot de farfelu, l'une qui me vient à l'esprit, c'était le client de notre suite présidentielle qui avait demandé à installer sur sa terrasse une table de ping-pong et à lui faire livrer 10 000 balles de ping-pong.
10 000 balles ?
Exactement.
D'accord.
Alors, ça paraît en effet farfelu, mais on a essayé de comprendre, évidemment, de voir comment on pouvait justement rendre cette demande la plus efficace possible et comprendre comment on pouvait justement répondre à ce besoin. Et en fait,
je me permets de t'interrompre, ouais. En combien de temps typiquement est-ce que vous devez trouver 10 000 balles pour cette personne?
Alors dans ces cas-là, c'est toujours pour hier.
D'accord.
C'est-à-dire le plus rapidement
voilà.
possible. Le client finalement a souhaité en fait avoir le plus de confort possible lorsqu'il jouait, ne pas ramasser les balles. C'était la raison pour ce nombre de balles particulièrement important. Mais voilà, une anecdote farfelue et réelle.
quelle folie. Et alors, c'est drôle parce qu'on discutait un peu en amont du sens du service de ton métier et j'aurais aimé en parler un petit peu. Tu m'as dit qu'en fait, justement, le service, c'est finalement ça, le luxe ultime. Beaucoup plus que, on va dire, les apparats, beaucoup plus que l'argenterie et les dorures, etc. Quelle serait pour toi, Thomas, une définition du luxe?
Alors, il y en a évidemment plusieurs. Celle que j'aime décrire, c'est faire vivre des émotions à des personnes, à des invités, en étant sincère, unique dans son service et en portant une attention particulière à tous les détails possibles. C'est comme ça que je décris le luxe. Et comme tu l'as très bien dit, le luxe est souvent intangible. Mmh. On aime souvent parler d'émotions du luxe. Et donc, derrière ce côté qui paraît pourtant parfois tangible du luxe, c'est en fait un aspect intangible qui est beaucoup plus présent. Et c'est ce qui est beaucoup plus difficile à atteindre. Ouais. Mais c'est ce que nos clients, nos invités recherchent, et c'est ce que nous recherchons également. C'est ce qui rend le luxe tellement plaisant à mettre en œuvre.
Je suis obligée de te poser la question parce que si je reviens en arrière au sujet de cette anecdote qui est farfelue, rigolote, au final, devoir gérer ce genre de personnalité,
d'un point de vue, on va dire, intellectuel, ne doit pas toujours être facile. Tu dois te dire, mais finalement, pourquoi est-ce qu'il a besoin d'avoir 10 000 balles? J'ai autre chose à faire que de le gérer. Je ne sais pas combien de chambres, de restaurants à gérer. Et pourtant, on se connaît un petit peu. Tu le fais toujours, on le sent, avec sincérité. C'est oui. Le mot que tu as utilisé. J'ai pas de question particulière, mais je trouve qu'il y a un paradoxe d'une certaine manière entre des demandes farfelues qui parfois pourraient paraître illégitimes et en même temps cette sincérité que tu arrives à garder, et j'imagine qui est nécessaire dans le secteur.
Oui, le luxe, peut-être pour compléter cette définition et répondre à cette question, c'est aussi justement être presque accessible à n'importe quel moment. C'est ce que nos clients recherchent. Ils sont chez nous pour justement avoir une expérience unique, mais aussi avoir une facilité dans leur séjour. Quelle que soit la demande, ils doivent pouvoir avoir un interlocuteur privilégié. Ce serait mentir de dire que je suis l'interlocuteur unique pour chaque client. Nous avons une équipe passionnée qui travaille à cette expérience du service ici au resort. Mais pour certains clients, encore plus particuliers que tous les clients, puisque chaque client chez nous est un client particulier ouais. Et unique, ben là, on peut avoir une attention particulière. Et souvent, ce qui est intéressant, c'est que les équipes ont l'impression que de par l'expérience, on a tout de suite la solution. On sait tout de suite comment résoudre un problème. Ce n'est pas le cas. On est confronté au même doute qu'un membre d'équipe qui aurait moins d'expérience. L'expérience va permettre, par contre, certainement de garder la tête froide, d'être calme, peut-être de réfléchir plus rapidement à plus d'options. Et derrière, c'est le client qui décidera de l'option qui lui conviendra le mieux. Je pense que c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça qu'on fonctionne bien en équipe. Mais voilà, pour répondre à cette question, c'est toutes ces demandes. Il faut savoir les entendre, bien les comprendre, et savoir y répondre le mieux possible avec un nombre d'options qui sont utiles pour le client.
Donc tu as cultivé une compétence d'adaptabilité qui doit être absolument folle.
C'est vrai que l'adaptabilité est en effet une qualité qu'il faut avoir, qu'il faut travailler, comme tu l'as dit, et ça vient avec l'expérience, puisque plus l'on est confronté à des expériences, plus on est en capacité d'y répondre rapidement. Le temps est toujours important dans le service puisque, comme on le sait, et ça ne concerne pas que l'hôtellerie, faire attendre notre invité, faire attendre le client, c'est ce qu'on évite. On essaie d'être le plus réactif possible. Et ça, ça vient évidemment avec le temps puisque derrière, comme je le disais, les solutions viennent plus rapidement une fois qu'on en a emmagasiné beaucoup plus au sein de sa carrière.
Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que j'aurais eu, tu vois, une image d'Épinal qui est que finalement certaines personnes ont un talent pour s'adapter, réussir à être créatif, avoir des idées. Et finalement, ce que tu dis, c'est qu'il y a peut-être un petit peu de ça, mais il y a aussi vraiment un travail. Et pour te connaître un petit peu, je sais qu'il y a beaucoup de travail pour réussir justement à improviser, quoi, d'une certaine manière, en toutes circonstances.
C'est exactement ça, puisque on sait souvent, en théorie, à quoi va ressembler une journée ou à quoi va ressembler une arrivée d'un client. Mais derrière, des facteurs externes ou internes, puisqu'on travaille avec l'humain, que ce soit côté client ou côté équipe, on en reparlera peut-être après, mais l'humain est justement imprévisible. On peut être parfois d'une humeur différente de la veille, ce qui, à nouveau, n'est pas une excuse. On devrait toujours et on doit toujours être disponible pour le client. Mais ces facteurs humains, on revient à cette intangibilité, font que même un aspect météorologique qui va être contrariant pour un client va le mettre dans une humeur différente et donc dans une sensibilité différente. Et c'est là où il faut essayer justement de travailler sur cette consistance du service à tout moment. Et donc, en effet, ça se travaille et c'est ce qui permet après d'être flexible, de s'adapter et de répondre presque à toute situation en offrant toujours une solution ou une alternative.
Je voulais te poser la question que j'ai posée à Estelle Touzet, qui était directrice de la sommellerie du Ritz au moment où je l'ai interviewée sur le podcast. Très bon épisode d'ailleurs.
Tout à fait, oui.
Qui justement m'expliquait qu'il n'y a pas de journée standard. Je voulais quand même te poser la question parce que je l'aurais dit en introduction, mais en fait, ce resort est immense. Et la particularité de ce resort que tu gères, c'est en fait son volume et le volume des activités, la pluridisciplinarité. Enfin, entre les restaurants, le golf, les deux spas, les hôtels, ça paraît sincèrement juste fou. À quoi ressemble une journée? C'est-à-dire, déjà peut-être aussi concrètement, à quelle heure est-ce que tu te lèves le matin? Est-ce que tu prends un petit déjeuner ou pas? Est-ce que tu as le temps? Enfin, j'aimerais comprendre pour qu'on se réalise aussi le travail qu'il y a derrière. C'est important qu'on le comprenne, je pense.
Alors, c'est vrai que il y a beaucoup de travail, ça tu l'as dit, et ça c'est très sincère également. Même si la passion fait que le travail n'apparaît pas comme du travail. C'est une activité qui est plaisante. Et ça, c'est important de le dire parce que d'un point de vue mental et d'un point de vue fatigue mentale, ça joue un rôle évidemment important. Toutes ces situations, ce sont des situations motivantes qui nous apportent de l'énergie, même si elles nous demandent beaucoup d'énergie, mais ça nous en apporte en même temps avec beaucoup de satisfaction. Et ça, c'est important. D'un point de vue très concret, comment commence une journée? Déjà, j'aurais tendance à dire que tout dépend quand s'est terminée la précédente. parce qu'on est toujours on est toujours flexible par rapport aux demandes clients, et selon une soirée qui peut se prolonger avec un groupe qui va justement être tellement à l'aise qu'il va rester plus longtemps dans les points de vente, ou alors un client qui va arriver dans la nuit qu'on va absolument souhaiter accueillir quelle que soit l'heure parce que ça fera partie du service, évidemment la journée suivante pourra commencer un peu différemment. Mais sinon, souvent, ce qui me concerne, j'aime me lever relativement tôt, entre 6h et 6h30, puisque le matin, me concernant, c'est une période relativement calme qui permet d'être très productive, qui permet également d'avoir une revue financière et aussi en termes de qualité de service sur la veille, puisqu'on a toujours une clôture la nuit qui permet ensuite le lendemain d'analyser les performances de la veille. Ensuite, une réunion de direction à 8h30, relativement tôt pour justement être aussi le moins interrompu. On n'est jamais interrompu par les clients, mais on peut être interrompu par les opérations. Et donc, le fait de le faire tôt nous permet d'en discuter avec tous les chefs de département de la manière la plus sereine possible. Et puis ensuite, commence la journée théorique telle qu'on l'a prévue. Mais comme tu peux l'imaginer, Pauline, tous les jours, des imprévus arrivent. Et donc, on sait toujours, comme j'aime le dire, quand elle commence, jamais quand elle se termine.
Donc, on est dans un métier où il faut pas vouloir avoir un planning bien établi, si j'ai bien compris.
C'est vrai que ça aide, et j'en profite pour aussi dire qu'il faut être extrêmement bien entouré d'un point de vue privé.
Ouais.
Je suis très, très reconnaissant de ma fiancée, de ma famille proche, qui justement me soutiennent là-dedans. Ouais. Et c'est très important d'avoir cette confiance et ce soutien, puisque ce sont eux également qui jouent le rôle de moteur et qui permettent de justement avoir l'esprit entièrement consacré à nos clients, à nos équipes sur place. Et ensuite, une fois que l'on rejoint le cadre privé, là aussi, de pouvoir déconnecter. Mais c'est important d'avoir cette confiance, d'avoir ce suivi. Ça, ça joue aussi un rôle énorme.
Tu parlais de plaisir. Je crois qu'on peut parler carrément de passion à ce stade, puisqu'en fait, c'est un métier qui est à vie. Oui. C'est le cas pour beaucoup de métiers d'une certaine manière, mais là, c'est à un niveau qui est tout autre. Et donc, je voulais savoir premièrement, d'où t'était venue cette vocation, si elle t'était venue beaucoup plus jeune, comment tu l'avais découverte, et puis peut-être aussi parler justement aux personnes qui nous écoutent, en fait, de comment susciter cette vocation ou la laisser fleurir quand on la voit autour de soi.
Alors, en ce qui me concerne, je suis donc fils d'une mère enseignante, professeur d'allemand, d'un père qui était dans le tourisme. Peut-être que si l'on rejoint ces deux aspects, ça fait penser justement à l'hôtellerie, avec une clientèle internationale où les langues jouent un rôle primordial. Le tourisme, c'est évidemment aussi un secteur d'accueil où l'on accueille souvent des étrangers ou des personnes et d'autres, ou des visiteurs d'autres départements dans sa propre ville ou dans sa propre région. Voilà pour la partie familiale. J'aimais beaucoup, quand j'étais petit, servir les amis de mes parents qui venaient dîner à la maison. Donc ça, c'était un jeu pour moi. Et je pense que quand tu parles de vocation, il faut le voir comme un jeu.
Ouais, ouais.
Même si on évidemment, on travaille, on agit dans des milieux hautement professionnels, extrêmement luxueux, il faut le voir comme un jeu et comme un plaisir. On en reviendra, mais cette notion de plaisir est en effet vitale. Et derrière, Thierry Marx, il y a quelque temps, disait qu'il fallait, pour l'hôtellerie et la restauration, offrir aux jeunes plus qu'un travail, mais un véritable projet de vie. J'aimais beaucoup ces mots-là. Puisque derrière, le travail a une dimension finalement très matérielle. On travaille pour gagner de l'argent, pour vivre. Alors que finalement, parfois on peut vivre pour le travail. Et en ce sens, c'est là où la vocation naît, et c'est là où il y a ce projet de vie qui vient. Encore faut-il être bien entouré, avoir la confiance des professeurs, avoir aussi peut-être les voies artisanales ou professionnelles qui puissent être encore davantage valorisées. Et après, avoir cette passion qui va permettre finalement de rendre tous les aspects, si on est honnête, qui sont assez dévalorisants de ces métiers. Des horaires impossibles, une rémunération plus faible que d'autres milieux. Mais finalement, quand on oublie ces aspects matériels et que la passion est là, ben c'est justement ce qui rend cette vocation passionnante.
Tu constates, toi qui es à la tête d'une équipe de combien de personnes aujourd'hui?
Alors, en haute saison, ça peut aller jusqu'à plus de 800 collaborateurs.
800 collaborateurs. Non, mais je n'imagine même pas. Je n'imagine même pas. Et je te faisais la remarque avant qu'on commence l'interview que je trouvais justement que le service au Birkenstock était absolument exceptionnel et je sentais en fait vraiment une sophistication et une certaine élégance en fait, sincèrement, du service qui fait qu'on se sent écouté. Et donc, je voulais te poser évidemment beaucoup de questions sur l'équipe. Parce qu'être à la tête d'une équipe de 800 personnes, ça paraît complètement fou. Et pourtant, tu arrives malgré tout à prendre le temps d'accueillir un client, de faire cette interview avec moi, d'être de temps en temps avec ta fiancée, je peux quand même l'imaginer. Parle-moi de la constitution de l'équipe, ou plutôt dans ton cas, de la manière dont l'équipe est organisée autour de toi et de concrètement ton rôle de manager, si tu le veux bien, auprès de toutes ces personnes.
Alors c'est une question passionnante, puisque finalement, avec un nombre de collaborateurs aussi important, il faut à la fois savoir les connaître, malgré tout, et en même temps savoir déléguer. Et je pense que c'est quelque chose, en termes de leadership et en termes d'apprentissage, puisque c'est infini, où il faut savoir toujours trouver la bonne manière entre faire confiance et quand même contrôler et savoir ce qui se passe dans le resort.
Et je me permets de t'interrompre, faire confiance dans un milieu, celui du luxe, où il est difficile de laisser place à l'erreur.
C'est ça, et c'est ce qui est aussi à la fois passionnant et en même temps très difficile. Comment donner cette confiance surtout aux plus jeunes qui acquièrent encore de l'expérience et en même temps s'assurer que le service va être impeccable. Alors, c'est vrai que je n'ai pas le droit de dire que l'erreur va être acceptée. Et en même temps, si elle est bien accompagnée, il faut justement trouver le moment où on laisse cette liberté, mais on est très proche des équipes pour tout de suite s'assurer, si on sent que ça part dans une direction qui n'est pas celle qui est souhaitée, qu'on va savoir reprendre la bonne direction et que le client ne se rende compte de rien.
Ouais.
C'est important, puisque ça paraît évident qu'à ce niveau, on ne peut pas avoir droit à l'erreur. Il y a différentes strates hiérarchiques que l'on essaie d'être le plus plate possible, puisque derrière le client, et j'essaie de ne pas prendre d'exagération, mais quand il demande quelque chose, il faut éviter les réponses du type « Oh, j'ai besoin de demander à mon manager ou à mon responsable ». Mais il faut savoir avoir ce pouvoir de décision à toute échelle de l'organisation. Et donc, j'aime souvent me décrire comme un chef d'orchestre qui coordonne l'ensemble des musiciens. Et je pense que c'est une image qui est beaucoup plus juste, puisqu'il faut savoir jouer juste, et qu'un musicien seul, souvent, va peut-être être un bon soliste, mais ça peut être un peu plus fade.
Ouais.
Alors que l'ensemble de l'orchestre qui jouera ensemble, à l'unisson, et qui saura s'accorder entre eux, c'est exactement ça qui sera réussi. Et c'est pour ça que j'aime bien cette image, parce qu'en plus, elle est assez proche de la réalité professionnelle, et c'est ce qui nous permet vraiment d'offrir cette belle qualité de service à nos invités.
Bien sûr. Pour parler concrètement, même si ce n'est peut-être plus toi qui joues ce rôle aujourd'hui, quand vous avez... un collaborateur qui, à un moment donné, ne sait pas, qui est confronté à une tâche difficile ou qui même est pas loin de faire une erreur. Comment est-ce que, justement, vous faites cet accompagnement? C'est-à-dire que si tu étais à côté, si tu voyais ce qui se passe, comment est-ce que ça se passe concrètement?
La première chose, je pense que pour le collaborateur, comme pour la personne qui l'accompagne, c'est d'être extrêmement intègre et honnête vis-à-vis du client. Il n'y a rien de pire, même quand certaines situations ne se passent pas comme elles auraient dû se passer, de mentir au client ou d'essayer de trouver de fausses excuses. Ça, c'est vraiment important et c'est une règle d'or que chacun devrait vraiment appliquer. Puisque le client, même s'il ne connaît pas tout ce qui peut se passer en coulisses, est loin d'être bête et comprend très vite que quelque chose ne s'est pas passé comme il le faut. Et ça fait déjà partie, sans rentrer dans une explication trop théorique, mais des étapes de l'excuse et des étapes, en fait, de ce qu'on appelle en anglais le recovery, comment réparer une situation qui ne s'est pas déroulée comme elle aurait dû se dérouler. Donc, déjà, être transparent. Et puis ensuite, s'assurer que justement, on donne le pouvoir à cette personne d'apprendre, d'être elle-même, et en même temps, de la guider par quelques phrases qui peuvent justement aider le collaborateur ou la collaboratrice à être à nouveau sur le bon chemin, et toujours être en contact aussi avec le client, directement contact visuel, pour faire comprendre qu'on est là pour aider, accompagner, et que la personne apprend. Et ça se passe souvent très bien, et c'est même valorisé par notre clientèle qui se dit, ça fait partie de la transmission. C'est une autre belle valeur de l'hôtellerie, c'est toujours transmettre. Et ça vaut pour les chefs qui transmettent en cuisine, pour les restaurateurs qui transmettent aux équipes en salle et pour les hôteliers qui transmettent à leurs équipes.
C'est ça, parce que j'ai l'impression, à ce que tu dis, que finalement cette transmission, ce management se fait beaucoup moins, j'ai l'impression, que comme dans une entreprise classique derrière un ordinateur où en fait on va faire un point spécifique pour dire voici feedback positif, feedback négatif, etc. Là, en fait, vous êtes sur le terrain en permanence. Donc, vous êtes obligé d'improviser le feedback, mais de manière délicate parce qu'on est face à un client. Donc, c'est vraiment comme un jeu de scène, quoi. Mais où, en même temps, la personne doit apprendre. Et donc, je trouve ça assez passionnant de me dire que vous mêlez l'opérationnel, finalement, à cet exercice de management.
Tu l'as dit et cette image est tout à fait juste. Nous sommes comme sur une scène de théâtre où nous avons finalement les équipes qui jouent le rôle d'acteurs et nous avons nos invités qui jouent le rôle de spectateurs. Mais des spectateurs actifs, qui est évidemment différent. Et un spectacle qui n'est pas écrit à l'avance, ce qui est aussi différent. Et donc, c'est justement ce qui est intéressant, comme tu le disais, c'est que souvent, dans l'idéal, on aurait tendance à penser que la transmission peut être théorique. Voilà comment l'arrivée d'un client doit se dérouler. Voilà comment on peut régler une situation difficile. voilà comment on peut servir une boisson. Évidemment, on a ce qu'on appelle des standards de qualité qui nous aident à avoir une consistance du service, on en parlait précédemment, mais pour tout ce qui n'est pas prévu, il faut justement savoir improviser. Et c'est là où la parole est importante, la manière de s'exprimer est importante, et surtout l'empathie. C'est une qualité qui est indispensable dans l'hôtellerie, et surtout, je dirais, dans l'hôtellerie de luxe. Comprendre le besoin de notre invité pour savoir y répondre au mieux. Et pas plus tard que tout à l'heure, une collaboratrice me disait « Ah, mais comment tu as résolu la situation? Pourquoi finalement le client ne change pas de suite ?» Et bien derrière, c'était comprendre finalement quel était vraiment l'enjeu de la situation, quelle était la déception. Et même si ça arrive très rarement, comme on est perfectionniste et qu'on veut que l'ensemble des clients soient entièrement satisfaits, ben c'est se dire comment on va pouvoir compenser cet aspect. Ouais. Et donc, on comprend quel est l'enjeu du séjour. Là, en l'occurrence, c'est un séjour avec des enfants, une famille qui veut vraiment, dans un emploi du temps chargé, recharger les batteries pendant 2-3 jours. Et ben donc, derrière, on regarde, on propose des activités auxquelles ils n'auraient pas eu accès. Et on compense de cette manière. Et la plus belle récompense, c'est après la discussion, revoir 4 beaux sourires et en disant c'est super et on apprécie notre séjour. Et voilà, c'est ce qu'on doit rechercher à tout moment. Et c'est toujours client par client, collaborateur par collaborateur, toujours se battre pour atteindre la perfection, j'allais dire la perfection du bonheur, parce qu'au final, c'est ça, on crée du bonheur et de la joie.
Passionnant. Alors, j'ai 2 questions qui me viennent à l'esprit. La première, on en a parlé aussi un petit peu en off, c'est cette histoire de paradoxe du service que tu viens de citer finalement, et qui est folle d'un point de vue entrepreneurial, c'est de se dire que finalement, quand quelqu'un a un problème, si on l'aide à le résoudre, il devient ton meilleur ambassadeur. Est-ce que tu aurais un exemple, tu viens de le citer, hein, mais peut-être un autre exemple encore plus parlant, d'une occurrence justement de ce paradoxe du service, et est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu constates ?
Oui, tout à fait. Ce n'est pas qu'un modèle théorique. Il existe d'un point de vue théorique, c'est pour ça que c'est intéressant de l'analyser. Il y a eu plusieurs études qui ont été réalisées là-dessus, mais on s'en rend compte également sur le terrain. Il y a un exemple qui me vient à l'esprit, une situation où l'hôtel était plein, une catégorie suite à une erreur de système avait été surbookée, surréservée, et donc le client qui avait réservé une suite familiale avait finalement été relogé dans 2 chambres communicantes, qui en plus en termes d'espace étaient plus généreuses, mais ce n'était pas le produit qu'il avait réservé. Et le client, qui avait été assez bruyant, m'avait dit « je veux avoir exactement ce que j'ai réservé ». Est-ce que l'on n'avait plus ? Donc ce client, évidemment, il faut trouver une solution. Finalement, on a trouvé une autre suite que l'on a pu rendre communicante avec une autre chambre, avec une autre vue, mais qui lui convenait complètement. Et il y a eu un lien entre l'invité et moi-même. Et ce lien a été tellement fort qu'ensuite, pour toutes ses réservations, il m'a contacté. Il a même souhaité ensuite réserver ce qu'on lui avait offert en option, donc ce dont il n'avait pas eu connaissance à la base, puisqu'il avait réservé autre chose. Et depuis, il revient, je dirais, tous les 3-4 mois. Et je suis persuadé, convaincu, que ce qui avait été fait avec l'équipe pour justement résoudre le problème a été vraiment prépondérant dans son choix de faire confiance à l'hôtel, de faire confiance aux équipes et de revenir parce qu'il a justement cette personne de contact qu'il n'aurait pas eu s'il n'y avait pas eu de problème. Et donc, c'est un paradoxe. Alors souvent, on me demande, oui, mais est-ce qu'il faut encourager les erreurs? Évidemment, non.
Bonne question.
Évidemment, non. Mais quand elles arrivent, il faut savoir les résoudre. Et c'est vrai que c'est justement, d'où le terme de paradoxe, ce qui rend la fidélité du client plus forte. Et ça, vraiment, je t'assure qu'on le voit à plusieurs reprises, même si les erreurs restent rares.
Au-delà de ça, j'ai vraiment le sentiment dans ce que tu dis que ce qui compte et qui fait la différence, c'est qu'il y a un attachement presque émotionnel qui se crée à ce moment-là, puisqu'en fait, la personne s'est sentie tellement considérée qu'au final, elle va se dire, quoi qu'il arrive, je sais que même en situation difficile, ça va se résoudre, quoi. On va faire attention à moi et donc je vais avoir en fait le luxe ultime, justement, de me dire que je n'ai pas besoin de m'inquiéter parce que quoi qu'il arrive, je serai taken care of, comme disent nos amis américains.
Mais c'est exactement ça, puisque surtout à cette échelle du luxe, tu l'as dit dans tes propos, l'erreur n'est pas acceptée. Et cette vision, elle est partagée par nos invités comme par nous-mêmes, puisque nous partageons cette même exigence du service. Et si elle arrive, il faut savoir la résoudre. Et c'est vrai que, comme tu l'as dit, tu as parlé de considération, c'est exactement ça. On accueille une variété énorme de nationalités, des profils très différents, et en ce sens, il faut quand même que l'hôtel corresponde à tous ces besoins qui sont finalement illimités. On en revient à l'humain. L'humain va avoir une sensibilité qui, évidemment, ne peut pas être rangée dans des cases théoriques. Donc en ce sens, s'assurer qu'il y a cette connexion, s'assurer qu'il y a ce respect, s'assurer qu'il y a cette compréhension des besoins, ça c'est extrêmement important de chercher à comprendre. On n'a pas à imposer notre choix, il faut justement offrir ses options et comprendre ce que l'invité souhaite. Et derrière, c'est ce qui rend en effet ce lien très fort. Et ce qu'on aime dire, et c'est là vraiment, je suis à nouveau sincère dans ces propos, c'est pas du tout des propos en l'air. On accueille nos invités comme si on accueillait des amis à la maison, sans qu'il y ait une familiarité quelconque, bien sûr. Mais l'idée et la philosophie, c'est de se dire, quand on reçoit quelqu'un chez soi, on veut que ce soit parfait. Et on est attaché à ce que ce soit parfait. Eh ben ici, évidemment, c'est pas notre maison privée, c'est notre maison professionnelle, mais il faut que ce soit parfait également. Et quand les équipes agissent avec ce besoin, en étant elles-mêmes déçues quand ça se passe pas bien, et au contraire, en étant heureuses comme pas possible quand ça se passe bien, et c'est par chance la majorité des cas, eh ben c'est exactement là où on réussit à avoir cette dimension de service. Et c'est ce que montrent aussi nos scores de satisfaction client. Ouais. C'est ce qui est la plus belle fierté du resort, je pense.
Un point que j'aimerais aborder, parce que tu en as parlé là au travers de cet exemple, c'est la compréhension client. Et ce que je trouve très intéressant dans ce que tu dis, c'est que vous devez faire un effort, et c'est peut-être ça le luxe ultime, de vraiment personnaliser votre service, et donc pour ça, de poser des questions. Et c'est vrai que je trouve très intéressant l'idée que on va pas juste attendre que la personne nous demande quelque chose. On va peut-être de manière proactive aussi se renseigner, essayer de creuser, de comprendre. Est-ce que ça, c'est vraiment quelque chose que vous faites?
Ah, définitivement. Ce qui est intéressant, c'est que l'expérience client commence bien avant l'arrivée physique de nos invités. Puisqu'il y a toute une étape qui va consister à recueillir le plus d'informations possibles sur le client. Sans être intrusif, c'est vrai qu'on va demander, dans la mesure du possible, aux clients de nous fournir eux-mêmes le plus d'informations possibles. Mais parfois, nous travaillons aussi avec des agences qui sont complices, évidemment dans le bon sens du terme, connaissent leurs clients, qui connaissent leurs préférences, qui vont nous les transmettre avec l'accord, évidemment, de leurs invités, de leurs clients, pour que nous-mêmes, nous puissions surprendre ces clients. Un exemple, tu vois, qui me vient à l'esprit, un invité à quatre pattes n'a pas pu se déplacer dernièrement. Évidemment, l'agence nous a appelé en disant qu'il manquait terriblement à la famille. Nous avons organisé, avec la complicité de l'agence, beaucoup de photos de ce chien qui s'appelait Snoopy et qui justement a quand même été présent à travers les photos. Les clients sont entrés dans la chambre, les larmes aux yeux. Et ça, c'est formidable parce que créer cette émotion, elle est sincère. Pour nous, c'est évidemment plaisant puisque c'est justement comme on personnalise et derrière, on sait que ça touche. Et en fait, il faut savoir toucher les clients. Donc ça, c'est toute cette première partie, en effet. Ensuite, il y a toute une reconnaissance, je dirais, du client. Notre but, c'est que quand le client arrive, même pour la première fois, il ne nous connaît pas, on ne le connaît pas, on va le reconnaître et s'adresser à lui ou à elle avec le nom. Ça, c'est important. Et finalement, j'aime souvent prendre ça comme exemple pour les équipes. Ça paraît simpliste, mais en même temps, c'est très vrai. Dans un commerce de proximité, quand tu rentres dans une boulangerie, une boucherie, qu'on t'appelle par ton nom. Derrière, tu te sens beaucoup plus valorisé par rapport à d'autres clients qui peut-être sont simplement salués avec un madame ou monsieur. Et voilà, ça, c'est ce que l'on cherche également. Que chaque client se sente unique chez nous et que finalement, il ait l'impression qu'on n'attende que lui. Et ensuite, après le séjour, c'est toujours important, et tu le disais, sur l'aspect proactif du service. Évidemment, pendant le séjour, toujours poser des questions ouvertes du type « Qu'est-ce que je peux encore faire pour vous, madame Lénio? Quelle serait votre préférence pour ce soir ?» Quels sont vos projets pour la journée? Et engager ce type de conversation avec les questions ouvertes vont nous permettre de recueillir des préférences, implicites bien sûr, et ensuite à la fin du séjour, demander qu'est-ce qu'on aurait pu encore faire de mieux pour votre prochain séjour. Et là, on allie l'invitation à revenir avec encore une personnalisation plus forte. Et ça, c'est passionnant.
Je pense qu'il y a tellement de ponts à créer entre d'autres secteurs d'activité qui n'ont rien à voir, qui ne sont même pas forcément dans le monde du luxe, mais on sait maintenant que le client quand même évidemment, et au cœur de toutes les problématiques d'une entreprise, d'une marque, et les métiers de l'hôtellerie. Et c'est pour ça que j'étais aussi heureuse de t'avoir sincèrement sur le podcast, parce qu'on sent avec la passion qui t'anime, comme d'habitude, à quel point tu parles bien de ces sujets. Je trouve ça vraiment très intéressant, et là, je parle à notre audience, de faire ces ponts, justement, entre le monde de l'hôtellerie, entre ce sens du service, et ce qu'on pourrait avoir même pour une entreprise qui vend des bijoux, comme c'est mon cas, ou d'autres. Donc, merci beaucoup déjà pour tous ces partages.
Non, je t'en prie, et je rejoins totalement ce que tu viens de dire, et sans être trop long, mais c'est vrai que finalement, les écoles hôtelières telles qu'on les imaginait il y a encore un certain temps sont maintenant considérées plus comme des écoles du service et de l'accueil. Et ces deux notions qui en anglais en fait se retrouvent sous le terme d'hospitality, finalement sont recherchées à l'heure actuelle vraiment de manière très forte par, comme tu le disais, un nombre considérable de domaines d'activité. même jusqu'au milieu bancaire, puisque à nouveau, on est sur une relation clientèle. Et c'est ça, et de confiance aussi. Et on retrouve ces valeurs. Donc, en effet, et la bijouterie en est un bel exemple également,
tout à fait,
où nous avons énormément de ponts. Ça, je suis bien
avant
d'accord.
Avant qu'on parle de ton parcours, parce que le temps passe et je veux évidemment en parler, j'ai une dernière question quand même sur ton métier, qui est ce que j'appelle dans mon petit jargon le contrôle qualité.
Oui.
C'est-à-dire, en fait, l'exigence. Et
oui.
Une fois de plus, on ne va pas se répéter, le Burgenstock est l'un des 10, enfin, a été élu, je crois, dans le top 10 des plus beaux resorts au monde, des plus beaux hôtels, enfin...
Oui, nous avons la chance, en restant très humble, mais d'avoir même été
premier,
numéro un
voilà,
de,
donc, tu
de
vois,
plusieurs
je fais mal mon travail, donc premier.
Mon...
Donc, ça vous situe, mesdames et messieurs, où on est. Mais tout ça pour dire que donc l'exigence est évidemment une très grande nécessité. La perfection, comme tu disais. Comment est-ce que, à ton niveau, ou les personnes qui sont formées dans ton équipe, puisqu'en fait, il faut savoir déléguer justement ce contrôle qualité, est-ce que c'est un travail de tous les instants? C'est peut-être ça ma question. C'est-à-dire que concrètement, tu passes dans une salle de restaurant en permanence, en fait, tu vois les choses et tu dois former les personnes. Comment, en fait, se traduit ce niveau d'exigence dans ton travail au quotidien et peut-être dans la délégation que tu fais au travers de tes équipes?
Alors, en effet, c'est à nouveau une très bonne question. À la fois, ce serait bien trop arrogant et irréaliste de se dire qu'on y arrive tout seul. L'hôtellerie, le luxe, l'exigence, comme tu le disais, c'est un travail d'équipe. Mais évidemment, ce qui est le défi de chacun, de chaque perfectionniste, c'est comment transmettre ce même niveau d'exigence à ses équipes, alors qu'on ne peut pas toujours être présent. Et ce qu'il faut, c'est justement avoir une formation qui est très importante, avoir une présence sur le terrain qui est aussi très forte, puisque plus soi-même on est présent sur le terrain, plus on voit, plus on sent, plus on peut former également. Ça, c'est un rôle important dans notre métier. Et essayer de gérer par l'exemple.
Ouais.
C'est-à-dire que lorsqu'on communique avec le client, derrière, sans rien dire, mais les équipes s'imprègnent déjà de la communication, de la manière même dont on résout un souci, de la manière dont on accueille, de la manière dont on se réjouit de quelque chose. Et ensuite, c'est on parlait de consistance, mais c'est ça, c'est avoir ce niveau d'exigence à tout moment, quel que soit le niveau de fatigue, quelle que soit l'occupation de l'hôtel. C'est-à-dire que l'hôtel, si j'exagère, qu'il y ait une chambre d'occupée ou qu'il y en ait une centaine, la qualité de service et le niveau d'exigence doivent être exactement identiques. Et c'est là où il faut justement travailler sur cette personnalisation et travailler avec les équipes, où quelqu'un disait, alors c'était en trois mots, c'est pour ça que je me permets de le dire en anglais, « do your job ». Et qu'est-ce que la personne voulait dire par là? C'était si chacun a une vision claire de sa mission et de son rôle, et justement... fait son travail, évidemment, aller au-delà de ses missions, c'est toujours souhaité, mais déjà, ne serait-ce que bien répondre à son rôle, on en revient au musicien, finalement, savoir exactement quelle note jouer, avec quel tempo et à quel moment, déjà, ça permet de régler une bonne dose d'inquiétude qui pourrait arriver en cas de manque de coordination. Donc, je pense que c'est ça pour résumer ma réponse, être présent beaucoup sur le terrain, être très proche de ses équipes, savoir les écouter, savoir comprendre éventuellement s'il y a des processus à mettre en place différemment et aussi être à l'écoute des clients puisque ce sont eux qui nous donnent évidemment leur retour et ce sont grâce à ces invités que l'on arrive à travailler et à devenir encore meilleur qu'on ne l'est à l'heure actuelle.
Et puis j'ai l'impression aussi de ce que tu dis d'avoir une clarté dans la communication avec tes équipes parce que pour que la personne arrive à « do her or his job », il faut qu'il comprenne précisément quel est son job et là où il peut aller, là où il ne peut pas aller, là où il l'a mal fait.
Et c'est exactement là où la confiance joue un rôle. Il faut avoir cette relation de confiance avec les équipes. C'est-à-dire que les équipes doivent se sentir à l'aise à tout moment de dire « je n'ai pas compris ce qu'on attend de moi. J'ai besoin de clarification. Quelle est la vision? Qu'est-ce qu'on cherche à atteindre ?» Et souvent, par manque d'expérience ou par peur de vexer, les équipes vont pas le demander. Et à nouveau, la responsabilité ne vient pas des équipes.
Ouais.
Elle vient des leaders. C'est à nous, en tant que leaders, d'être au service des équipes et de s'assurer qu'elles comprennent exactement la mission et que l'on est tous ensemble sur le même bateau à naviguer dans la même direction. Mais il faut que l'équipage aille dans la même direction. C'est uniquement de cette manière-là qu'on arrive à ces résultats. Sinon, on perd du temps, on perd d'énergie, on s'agace, on s'énerve, le client le sent et c'est évidemment ce qu'on souhaite éviter à tout moment.
Bon Thomas, on va passer maintenant à des questions plus personnelles si tu me l'autorises.
Bien sûr.
Je voulais qu'on revienne un petit peu en arrière et tu me parles de ton enfance. Donc tu m'as parlé rapidement de ta famille. Est-ce que tu peux me donner encore plus de contexte, m'expliquer où est-ce que tu as grandi, comment était le petit Thomas, est-ce qu'il était déjà aussi chaleureux, aussi passionné, aussi travailleur, bref, est-ce que tu étais plutôt introverti, extraverti? Voilà, j'aimerais une peinture, si je puis dire, de ton enfance pour comprendre d'où tu viens.
en étant relativement pudique, mais en sachant que personne ne nous écoute, Pauline, bien je vais sûr. Essayer de rentrer un peu dans cette intimité. Plus sérieusement, je pense que déjà depuis petit, j'ai eu la chance d'être entouré de parents et d'une famille aimant. Ça, c'est important. Et on parlait de la confiance. Et lorsque déjà petit, j'ai exprimé le souhait assez jeune, et c'est certainement une chance, il faut être honnête, d'évoluer dans ces métiers de la restauration et de l'hôtellerie, sans forcément savoir exactement à quel niveau, dans quelle direction. Je pense que beaucoup de parents ou beaucoup de familles auraient pu dire « Écoute, non, ça c'est pas un domaine pour toi, tu vaux bien plus. » Et là, au contraire, mes parents ont essayé de comprendre ce qui me plaisait dedans. Et ce qui me plaisait, c'était le contact avec les autres. Ça, c'était assez clair. Alors que j'étais fils unique. Mais j'ai été éduqué d'une telle manière que les autres sont toujours passés avant moi, malgré le fait d'être fils unique. Et finalement, avec le recul, je pense que c'est aussi ce qui m'a donné ces valeurs d'empathie, de toujours penser aux autres avant de penser à soi-même. Ça, c'est certainement une dimension très forte qui m'a été inculquée. La générosité aussi, et pourtant venant d'une famille modeste, mais la générosité faisait partie des valeurs de la famille, en fait toujours partie. À nouveau, en faisant le parallèle, l'hôtellerie, c'est s'offrir aux autres. Le luxe, c'est la générosité également. J'aurais pu l'inclure dans la définition tout à l'heure. Donc ça, c'est quelque chose évidemment qui a été là. Et je pense que, et on en parlera aussi, lorsque j'ai pu commencer mes études, alors que je n'avais pas le financement, ni du côté de mes parents, ni du côté des banques, qui m'ont fait relativement peu confiance, à l'exception d'une banque et d'un conseiller, donc je suis très reconnaissant bien sûr, qui a cru en moi. Lorsque j'ai été accepté pour commencer mes études, je n'ai pas pu cliquer sur le bouton « oui, je peux commencer ». J'ai été accepté, mais je ne pouvais pas
le financer.
Et c'est là où il a fallu se battre. J'ai eu la chance à nouveau avec mes parents, avec ce conseiller, avec aussi beaucoup de persévérance. C'est une autre valeur. Voilà, d'y arriver. Donc, pour reprendre cette jeunesse, elle a été baignée en effet de beaucoup d'amour, beaucoup de confiance, beaucoup d'accompagnement qui a justement permis d'avoir une confiance en soi de plus en plus grande, alors que j'étais certainement plutôt considéré comme timide et réservé, petit. Et quand j'ai quitté la maison à 17 ans pour aller à l'étranger, beaucoup étaient surpris en disant « jamais on aurait cru que ce serait le cas ».
Et alors, qu'est-ce que t'es parti faire à 17 ans ?
La première chose, c'était pour moi indispensable d'améliorer mes langues, puisque j'avais vécu en France toute ma jeunesse, qui n'est pas le cas de tout le monde. De plus en plus, certaines familles, c'est une chance pour les enfants. Les parents travaillent et les enfants accompagnent à l'international, apprennent à découvrir différentes cultures, apprennent évidemment à parler différentes langues, ce qui n'était pas mon cas. Donc le premier choix était de partir en Angleterre, prendre des cours d'anglais, des cours de langue, ensuite le coupler à une expérience professionnelle. Faire la même chose, une autre partie de cette année de césure après mon baccalauréat en Allemagne, où là j'ai pu avoir la chance d'être accueilli dans un très bel établissement de luxe également, et où j'ai pu découvrir vraiment 7 ou 8 départements en 6 mois. Donc, une très très belle exposition à toutes ces facettes de l'hôtellerie, et avant d'étudier. Donc ça c'était vraiment, après le baccalauréat, à 17 ans et demi exactement, la possibilité d'avoir déjà un bagage solide pour rentrer dans ce milieu qui, à l'heure actuelle, ça reste encore plus le cas, requiert d'avoir une connaissance multiple de certaines langues.
Et qui t'a permis aussi de tester ta vocation, mine de rien,
tout
de
à
savoir
fait.
Si c'était vraiment quelque chose qui était fait pour toi.
Tu as tout à fait raison, et c'est quelque chose, à nouveau, que je ne peux que conseiller. Avoir la chance de tester, comme tu le dis, et souvent, c'est peut-être aussi lié parfois avec la peur de l'échec, selon des cultures. Je pense que la culture française, même si ça évolue, voit l'échec comme un échec au premier sens du terme. D'autres cultures, comme la culture américaine, le voient plutôt comme une chance. Et certaines cultures encouragent davantage l'échec. Et souvent, quand un jeune se dit « mais je ne sais pas bien ce que j'ai envie de faire, bah, peut-être que ça me plairait, peut-être que cette voie me plairait davantage », ne pas lui donner la chance d'essayer, à mon avis, ça n'en cache que moi, mais c'est une erreur, puisque l'espérance de vie augmente, nous allons travailler de plus en plus longtemps, et donc avoir la chance de mettre tout en œuvre au début de sa vie professionnelle pour être sûr, ou en tous les cas, être sûr qu'une étape professionnelle de sa vie sera celle qui nous rendra heureux, c'est quand même formidable et ça devrait être encouragé davantage.
Tu parlais de tes études, on va en parler rapidement si tu le veux bien, parce que le HL, donc l'école hôtelière de Lausanne, est évidemment une référence mondiale pour le secteur de hospitality, de l'hôtellerie et de la restauration. Tu as fait cette école et donc tu as dû la financer. Avant peut-être de parler de l'EHL, j'aimerais revenir sur cette notion de financement, si tu l'accèdes, parce que je trouve ça extrêmement puissant de se dire que tu as été jusqu'au bout des choses pour accomplir ton rêve, quoi, tout simplement, alors même que tu n'avais pas forcément les cartes en main pour y arriver. Et qu'en fait, tu étais d'une certaine manière inarrêtable. Qu'est-ce que tu as fait concrètement pour réussir à trouver ces financements? Quelle a aussi été ta réaction quand tu as commencé à avoir les premiers noms de banquiers qui te disaient bah, « en fait, non, Thomas, désolé, ça ne sera pas pour vous ».
C'est vrai qu'en plus, à ce jeune âge, on a une maturité qui est différente parce qu'on n'est pas confronté à des crédits. Normalement, à 17 ans, on ne devrait pas y être confronté.
Non, on pense aller en boîte de nuit et puis c'est tout.
Voilà, j'allais dire, certains ont peut-être cette chance-là, et encore, mais on y reviendra, ça a été certainement une chance pour moi de passer par cette étape. Et ça m'a fait, évidemment, gagner un nombre d'années très important dans ma carrière. Il y avait deux manières. C'était soit abandonner, soit se dérouter et trouver d'autres options, ou alors persévérer. Et étant persévérant, c'est évidemment l'option que j'ai choisie. Mais à nouveau, je suis très reconnaissant d'avoir été accompagné dans le noyau familial, comme par cette banque, pour justement vraiment accrocher ce prêt qui a été négocié à l'échelle nationale par le conseiller, puisque c'était pour un étudiant, surtout en France, une somme très importante qui se rapprochait plus d'un crédit immobilier qu'un crédit d'études. Et c'est vrai que c'est certainement ce qui m'a aussi fait beaucoup mûrir, c'était le fait de se dire qu'il y aura une solution, quelle qu'elle soit, et que si ça passe pas par la porte, ça passera par la fenêtre, et sinon on trouvera une autre solution. Et cette persévérance, elle m'a toujours accompagné, elle m'accompagne encore. Ça, c'est certainement une des forces, hein, ce qui m'a aidé vraiment à me construire. Et ce que vraiment j'ai envie de partager, c'est que il faut croire en ses rêves, et il faut les rendre possibles, quels que soient les obstacles qu'on rencontre. Et en ce sens, c'est vrai que ce financement, finalement, à force d'essayer dans des banques qui ne nous connaissaient pas, est tombé à nouveau sur des personnes certainement plus passionnées que d'autres, qui croient en un projet, et ben ça a fonctionné. À cet âge, on a construit avec mes parents, avec le banquier, un plan de financement sur l'ensemble des études, plus sur les années qui les ont évidemment poursuivies, puisque ce remboursement de prêt a commencé pendant les études, ce qui était une condition sine qua non pour obtenir le prêt. Et derrière, dès 3 jours après la rentrée, j'ai commencé à travailler en extra à Lausanne. Et en ce sens, ça m'a fait gagner évidemment beaucoup de temps d'expérience professionnelle. J'ai très vite géré mes propres équipes. Et c'est pour ça que je disais qu'avec le recul, si je n'étais pas passé par ces difficultés qui font mal, qui sont douloureuses, ben je n'aurais pas eu cette même attitude, je n'aurais pas eu ce même respect vis-à-vis des équipes, je n'aurais pas eu ces mêmes valeurs de persévérance, de combat professionnel. Et en ce sens, ça a été une chance de passer par ces difficultés.
Écoute, tu es très sage de le dire comme ça. Je pense que c'est le cas avec le recul, évidemment. Sur le coup, ça peut être plus difficile. Mais c'est vrai que quand on y pense, tu es quand même très jeune pour être au poste où tu es aujourd'hui. Et je peux imaginer qu'en réalité, tout ce que tu as vécu, et notamment ce travail en extra que tu faisais en parallèle de HL, qui pourtant est une école très exigeante, si je me trompe pas, a dû faire que déjà tu t'es endurci et que c'est aussi une des raisons pour lesquelles tu prends le temps de faire une interview avec moi, par exemple, alors que tu as beaucoup d'autres choses à gérer. Mais aussi, c'est probablement ça qui a fait que tu as gagné beaucoup plus d'expérience, un avantage compétitif d'une certaine manière par rapport à tous tes autres camarades de l'EHL.
Oui, et en fait, ce que j'aime dire, c'est que ce n'a jamais été une compétition avec les autres. Ça a toujours été une compétition avec moi-même. Ça a été toujours l'idée de se dire comment gagner du temps sans brûler les étapes pour s'assurer, comme finalement un projet, si on prend l'image d'une maison, d'avoir les briques nécessaires qui viennent s'ajouter les unes sur les autres et qui permettent d'avoir cette propre solidité. Et j'en parle souvent avec des collaborateurs et des collaboratrices qui me parlent d'un âge à partir duquel on peut atteindre ses responsabilités. Et très sincèrement, j'aimerais dire et partager que, à mon avis, l'âge ne joue pas un rôle dans le choix qui devrait être de faire confiance à telle ou telle personne. C'est tout le bagage qui a été accumulé qui devrait être vraiment évalué. Une personne qui va avoir un âge plus avancé, mais une expérience professionnelle moins variée, va certainement apporter moins. Peut-être qu'une personne qui aura eu la chance d'avoir une expérience très variée. On en parlait, que ce soit d'un point de vue linguistique, que ce soit d'un point de vue culturel, que ce soit d'un point de vue professionnel. Et quelqu'un, un ami de promo, me disait finalement, pour toi, le HL a duré 8 ans. 4 ans la journée, 4 ans la nuit. Et sans exagérer, c'est vrai que c'était une manière de trouver le temps d'allier de l'aspect matériel de financement, d'autofinancement des études, mais en même temps qui m'a permis de gagner en leadership, en expérience. Et évidemment, j'ai mis le même accent sur les études. C'était évidemment essentiel de réussir à tout point de vue et d'apprendre pour gagner du temps professionnellement.
Je suis quand même obligée de te poser la question de la vie personnelle. On en a un petit peu parlé en début d'épisode. Mais c'est vrai, quand on te visualise en train de travailler, devenir major de promo pour le HL, en parallèle de ça, mener de front une activité professionnelle pendant toute la nuit, on se dit mais à quel moment dort-il ? Et pourtant tu m'as dit en off que tu étais plutôt un gros dormeur, en tout cas que tu appréciais le sommeil.
J'adore dormir parce que c'est mon seul moyen de récupérer et d'être vraiment d'accumuler cette énergie pour les journées ou pour la journée qui s'annonce. Donc en ce sens, c'est ce que j'aime bien. J'ai la chance de dormir très profondément et de récupérer rapidement. Mais c'est vrai que comme certains sportifs, peut-être certains hommes politiques, certains hommes d'affaires, il faut toujours écouter son corps. Je pense que c'est important. Et donc, écouter aussi ses limites. C'est-à-dire que le jour où on se sent complètement épuisé, il faut aussi savoir s'arrêter et savoir justement récupérer au bon endroit. Et d'un point de vue privé, on l'a évoqué un peu plus tôt, être la chance d'être aussi entouré de personnes extrêmement aimantes. Sans ce soutien, ce serait impossible. Et c'est pour ça que cette réussite, je dis toujours, elle n'est pas individuelle. Mmh. Elle est liée d'un point de vue professionnel aux équipes et d'un point de vue familial et privé à toutes les personnes qui nous encadrent et qui nous, en anglais, on dirait support. On ne sait pas le terme français de supporter, même si parfois j'ai l'impression qu'elle supporte aussi notre flexibilité, mais c'est vraiment ce soutien. C'est le fait qu'elle nous soutienne aussi, de manière aussi constante, c'est important. Mais il ne faut jamais oublier que justement, nos clients, on les adore, mais évidemment, nos vrais premiers VIP, ce sont aussi ceux que l'on aime et ceux qui nous entourent.
Pour revenir sur le sujet de la physiologie, beaucoup de travail, fatigue, évidemment. Et je voulais en fait savoir si dans un métier comme le tien, tu peux justement faire des pauses. C'est-à-dire que tenir une journée de 6h30 du matin jusqu'à 3h du matin, pas la même chose que faire, tu vois, un 9h, 17h, qui est le cas de beaucoup de monde. Quelles sont peut-être tes astuces, tes techniques, est-ce qu'il y en a, à part la passion, pour réussir à tenir le coup pendant des journées qui sont aussi longues et puis surtout qui s'enchaînent, puisque je peux imaginer qu'en plus tu fais assez peu de pauses, je veux dire, au niveau des jours que tu prends.
Alors, il faut être honnête, évidemment, ce rythme-là, alors il est de manière générale relativement important, à l'extrême, ça reste sur vraiment des pics ou à l'exception, mais il faut à nouveau, on le disait, s'écouter et écouter son corps. Et c'est-à-dire que souvent, on essaie d'être là quand les clients le sont. Mm. C'est-à-dire que pendant des jours fériés, pendant des fins de semaine, c'est là où la présence est importante parce que c'est là où l'activité est la plus importante. Et donc, à l'inverse, les journées plus calmes à l'hôtel sont celles qui devraient théoriquement être aussi celles où justement, pour nous, elles le sont davantage et donc où on est à l'extérieur du resort. Je pense que ce qui est important, c'est d'essayer de se donner au maximum et s'engager autant professionnellement quand on est à l'hôtel, mais autant personnellement quand on est à la maison, en famille ou dans le cadre privé. Puisque le fait de se donner au maximum pour ceux que l'on sert d'un point de vue professionnel ou ceux que l'on aime d'un point de vue privé, c'est aussi, selon moi, ce qui aide à trouver la bonne balance. Mmh. Mais toujours se donner à fond. Et c'est de se dire, au travail, je suis entièrement dirigé sur le travail, sur nos invités. Par contre, à la maison, sauf en cas d'urgence, on reste toujours accessible. Mais sinon, on se donne également à fond pour la famille.
Le problème parfois d'être à fond, je sais parce que je le suis, c'est que parfois on perd un peu de recul émotionnel face à des difficultés, des imprévus, et pourtant tu en vis beaucoup. Je voulais savoir si t'es quelqu'un qui te met la pression, et si tu as des astuces, des petites choses que tu arrives à mettre en place pour justement réussir à ne pas prendre les choses trop personnellement ou mal quand ça se passe pas comme tu le souhaiterais.
C'est une autre question passionnante. Je pense que la première chose, le sommeil, est une arme vraiment nécessaire. Je me rends compte que, et je pense ne pas être le seul, un manque de sommeil va nous rendre plus irritables, va nous rendre plus impatients, et on s'en rend compte soi-même tout de suite sur des situations à régler ou même sur des retours de clients ou de collaborateurs. Je pense que le sommeil, un sommeil profond réparateur, va aider à rester calme et à garder la tête froide. Un état de fatigue plus avancé, à nouveau, va nous rendre plus irritables. Donc, je pense que le sommeil est une première arme. La deuxième arme, c'est d'essayer, je ne dis pas que c'est évident, mais d'essayer de rester, et c'est lié avec la première réponse, mais d'essayer de rester le plus calme et le plus consistant possible. C'est-à-dire que quand quelque chose se passe bien, c'est formidable, on le célèbre aussi avec les équipes, mais il faut rester concentré aussi. Et puis, quand quelque chose se passe mal, on est déçu, mais à nouveau, il faut aussi l'accepter. Et ça, c'est dur quand on est perfectionniste. Accepter une erreur, par définition, c'est ce qu'un perfectionniste a du mal à faire. Et là, je parle de moi en premier lieu. Mais derrière, il faut l'accepter. Et justement, ce travail d'acceptation et comprendre que finalement, c'est un outil presque pour devenir encore meilleur, C'est ce qui aide à rebondir. Donc, je pense que déjà, ces deux aspects-là sont les deux aspects principaux. Et sinon, à nouveau, je réitère ce que je disais auparavant, mais s'écouter. C'est-à-dire qu'un soir, ou même si à une heure relativement peu avancée de la soirée, si on se sent fatigué, accepter aussi de rentrer, d'aller se coucher et de déconnecter. Parce que c'est aussi ça la responsabilité. Et c'est aussi, je pense, le montrer aux équipes. Alors, certaines équipes, évidemment, ont moins de flexibilité en termes d'horaire, parce qu'elles doivent être présentes jusqu'à une certaine heure. En ce qui nous concerne, on est évidemment plus libre d'organiser notre temps comme on le souhaite. Mais ça, je pense que c'est important aussi, de ne jamais forcer, puisque c'est là où, quand on commence à forcer, sans parler d'autres concepts médicaux qui peuvent être évidemment très, 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 très gênants, il faut essayer de s'écouter, de se dire, ben voilà, là, je lâche. Les équipes sont là, faire confiance et puis revenir, reposer le lendemain.
Et puis garder le plaisir, comme tu disais.
Ah, ça c'est évident que cette notion de plaisir, elle est indispensable.
Thomas, on arrive à la fin de cette interview et je vais te faire passer mon crible, évidemment. Donc les questions que je pose toujours à la fin du podcast. La première, c'est est-ce que tu as vécu dans ta vie, ça paraît difficile de penser que c'est le cas, mais je te laisse me répondre, un grand échec. Et surtout, en fait, j'aimerais que tu me parles des enseignements que tu en as tirés.
À la sortie des études, je rêvais d'intégrer une chaîne hôtelière internationale. J'avais presque envie de dire quelle qu'elle soit. Il y en avait deux ou trois qui correspondaient à mes valeurs. On en a parlé implicitement, mais je pense que les valeurs sont extrêmement importantes aussi, d'être en phase avec les entreprises pour lesquelles on travaille. Et tu parlais de la pression que je me mettais. Je pense que je ne me mets pas de la pression, mais en même temps, quand on est perfectionniste, on essaie d'atteindre la perfection. Et là, certainement que cette atteinte de la perfection a été un peu trop haute dans le cadre d'un premier ce qu'on appelait assessment center. Je m'excuse auprès de notre audience pour l'anglicisme, mais qui était un centre d'examination qui permettait ensuite, depuis un millier de candidatures, d'avoir uniquement 15 élus pour atteindre, d'un point de vue européen, ce programme de formation pour jeunes diplômés. Et lorsque j'ai essayé sur cette première chaîne hôtelière qui m'attirait de le faire, eh ben ce centre d'examination s'est mal déroulé. J'ai perdu mes moyens. Dans certaines de mes réponses, j'ai été très ému par certaines réponses que je donnais, puisque je vis tout ce que j'explique et ce que je partage. Et en fait, je me suis rendu compte, certainement à cause de trop de fatigue, en essayant d'analyser la situation, que c'était véritablement là un échec, puisque je n'ai pas pu atteindre les phases suivantes de sélection. Et à nouveau, et j'aimerais vraiment insister sur ce point, il y avait deux possibilités. C'était de se dire, bon, ben voilà, c'est peut-être pas fait pour moi, il faut que je repense complètement. Ou alors essayer de rester fidèle et se dire, d'accord, ça c'était une chaîne, c'était celle qui me plaisait le plus, mais est-ce qu'il y en a d'autres qui pourraient correspondre? Il y en avait une autre. Et finalement, cette autre chaîne avait un processus de sélection relativement similaire. Et en fait, je me suis rendu compte à nouveau que ce premier échec avait été un entraînement pour moi. Et que peut-être comme un sportif, je m'étais rendu compte que je n'avais pas été suffisamment bien préparé. Je ne m'étais pas suffisamment bien préparé. Et donc j'ai travaillé sur cet échec. Je me suis préparé d'un point de vue encore plus sérieux, plus approfondi, et là, ça a fonctionné. J'ai pu atteindre les phases finales de sélection, j'ai pu être retenu, et donc j'ai commencé ma carrière au sein de cette chaîne internationale. J'étais très heureux.
Bien, et surtout, c'était extrêmement mérité, de ce que je peux comprendre. Non, mais c'est vrai que cette idée d'échec, et surtout des enseignements qu'on en tire, j'adore poser cette question, parce qu'en fait, à chaque fois que j'ai un invité de podcast, on apprend nous-mêmes, en tant qu'auditeurs, quelque chose de différent. Et en fait, on néglige, je trouve, le pouvoir de l'échec comme étant un pouvoir d'entraînement, en fait, tout simplement.
Oui.
Et donc, ce que tu dis me parle beaucoup de ce point de vue-là. S'il y avait quelque chose qui était à refaire dans ta vie personnelle, professionnelle, qu'est-ce que tu souhaiterais refaire différemment?
Si j'en avais la possibilité, avec le recul, et à nouveau, j'ai financé mes études moi-même, c'était important que je le fasse en français à l'époque pour justement comprendre encore plus rapidement les contenus des cours qui nous étaient dispensés, mais je le ferai certainement en anglais, puisque si je l'avais fait en anglais, si j'avais eu davantage de temps, justement, d'apprendre, en plus du contenu des études, le contenu linguistique qui découlait, ça m'aurait peut-être permis professionnellement d'aller dans un pays où je ne connaissais pas la langue et d'ajouter une langue supplémentaire à mon profil. Je pense que c'est plutôt dans cette direction que j'aimerais, si je devais refaire une étape de ma vie, la refaire, puisqu'on se rend compte que les langues sont aussi des armes positives, bien sûr, mais qui permettent d'avoir beaucoup plus de tolérance, d'avoir beaucoup plus de compréhension, de s'ouvrir encore davantage aux autres. Et là, je ne parle pas uniquement de nos invités, mais aussi quand on voyage, de créer des liens qui sont beaucoup plus forts quand on peut déjà faire l'effort de parler la langue du pays qui nous accueille. Donc en ce sens, voilà, ce serait certainement dans cette direction.
Est-ce qu'il y a une maxime, une citation, des mots de sagesse qui te parlent particulièrement et que tu pourrais partager avec nous?
Alors, il y en a, oui, plusieurs qui m'accompagnent. Tu as cité tout à l'heure un mot que j'aime beaucoup, c'est le mot de plaisir. Et il y a cette citation très simple de Jean Cocteau qui me suit souvent, qui disait « Rien n'est plus sérieux que le plaisir ». C'est à la fois très simple et je trouve en même temps très vrai. Et c'est quelque chose de très positif, je trouve. Puisqu'il y a justement, je trouve, un peu cette malice dans la citation de dire que finalement, le plaisir, c'est sérieux.
Mm.
Et que le plaisir, c'est le jeu. On parlait du jeu tout à l'heure. Le jeu, ça peut paraître en disant « Ah oui, mais dans cet environnement de luxe, on ne peut pas jouer. L'erreur n'est pas acceptée. » Mais évidemment, je pense que nos auditeurs et nos auditrices le comprendront. C'est le jeu dans l'aspect positif du plaisir, justement.
Bien sûr.
Et donc, être sérieux en ayant beaucoup de plaisir, je trouve que c'est une très belle balance.
Bah, surtout, c'est ça qui permet la durabilité.
Oui, c'est vrai. Et c'est quelque chose, en effet, qui permet, quand tu disais tout à l'heure, quel est peut-être un conseil pour tenir malgré la fatigue physique. Enfin, justement, considérer le travail comme un plaisir, ça permet presque de travailler en illimité. Et c'est à nouveau très sincère comme sentiment, puisque c'est une vraie source d'énergie positive.
Et on voit que tu en es très animé. Deux dernières questions pour toi. Alors, celle-ci n'est pas facile. Je serais curieuse d'avoir ta réponse. Est-ce qu'il y a une croyance que tu vis, qui t'est propre, qui en réalité est controversée? Donc, ce que je veux dire par là, c'est que tu constates, que ce soit en France, en Suisse, ailleurs, que l'opinion publique, d'une certaine manière, dit quelque chose, pense quelque chose à l'heure actuelle et tu n'es plutôt pas d'accord avec toi. Je te donne un exemple qui me vient à l'esprit, qui m'a été cité plusieurs fois sur le podcast, c'est la France est un pays qui va à volo, qui est moribond, qui ne va plus. On vit la pire époque de la Terre et à l'inverse, mon invité me dirait, moi, ma croyance, c'est qu'on vit la plus belle période qui n'ait jamais eu lieu puisqu'en fait, le progrès est là et donc je ne suis pas d'accord avec ce pessimisme ambiant.
Alors, c'est intéressant comme question. Il y a deux aspects qui me viennent à l'esprit. Un que l'on a déjà évoqué, pour ça que je vais être très bref sur cette première partie de réponse. L'échec, je pense que dans certaines cultures, et peut-être encore en France, l'échec est considéré comme destructeur, alors que moi, je le vois comme une opportunité d'être encore meilleur.
Ouais.
Ça, ce serait une première réponse, mais on en a déjà un peu parlé. Je pense que la deuxième également, c'est certainement une croyance que pour réussir à des postes évidemment difficiles, il faut un peu jouer le requin, avoir ses valeurs peut-être d'agressivité, qu'elle soit verbale, qu'elle soit même peut-être parfois en termes de valeurs, ne pas être très fidèle à certaines valeurs.
Ouais.
Et en fait, je pense que c'est tout l'inverse. Je pense que l'humilité et les actes sont beaucoup plus forts que la parole et l'arrogance. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris moi-même de par ces difficultés, même à Lausanne, en repensant à ça. Je rentrais avec toutes ces difficultés. Je devais travailler pour financer mes études. Je nettoyais les tables de la cafétéria. J'avais peur du regard des autres dans cet environnement qui est plutôt considéré comme un environnement aisé.
Mmh.
Et pourtant, en plus de ce que tu as évoqué, on m'a remis le prix des valeurs EHL. C'est-à-dire que finalement, le fait d'aider les autres, d'être présent pour les autres, ça a été reconnu comme tout le monde, comme étant un exemple.
Mmh.
Et je le vois dans ma carrière, soit dans les centres d'examination dont on a parlé, c'est pas souvent celui qui parle le plus ou qui parle le plus rapidement ou qui parle le plus fort qui va réussir. Et ce qui avait été, je me souviens, c'était un retour d'expérience, il y avait des exercices de groupe. Parfois, observer, ne pas dire beaucoup, écouter, comprendre les dynamiques positives ou négatives au sein d'un groupe et ensuite essayer d'intervenir en imposant son point de vue, mais en ayant déjà fait une synthèse pendant que les autres parlaient, c'est souvent ce qui va être mis en avant. Et je dois dire que c'est pour l'instant ce qui m'a réussi dans ma carrière. Donc c'est, oui, je pense que c'est ce que j'aimerais partager.
Écoute, c'est une très belle croyance et j'espère qu'elle est vraie puisque je la partage et que je pense que bon nombre de nos auditeurs aussi. Je sais qu'il y a un paquet de introvertis, on va dire, qui aiment plus justement rester, on va dire, sur le banc de touche parfois que d'être, dans le feu de l'action. Mais en fait, il y a aussi une valeur parfois à être l'observateur.
Et je pense qu'en effet, c'est ça. Et comme tu le disais, souvent être considéré comme timide ou introverti, ça peut être aussi vite perçu comme péjoratif. Alors évidemment, il ne faut jamais être dans un extrême ou l'autre, mais justement, essayer d'en faire une force à nouveau. Et on en revient peut-être un peu sur cette discussion de l'échec, se dire, tiens, peut-être une difficulté ou quelque chose où on a moins l'impression d'être doté d'un talent, en faire une force et trouver les aspects de cette qualité finalement qui sont les plus importants et qui peuvent être le plus mis en avant. c'est certainement quelque chose qu'on peut essayer, qui vaut le coup d'être essayé parce que ça fonctionne.
C'est sûr. Dernière question pour toi. Est-ce qu'il y a un livre ou des livres qui t'ont particulièrement marqué? Et quand je pose cette question, en fait, c'est pas simplement un livre qui t'a plu, un des derniers livres que t'as pu lire, mais vraiment un ouvrage qui t'aurait tellement profondément marqué, qui t'a finalement peut-être fait changer d'avis, qui t'a fait un peu aussi découvrir qui tu étais.
Il y en a deux, si tu me permets, c'est presque une réponse suisse.
C'est vrai.
Mais qui m'ont vraiment inspiré. Le premier, on me l'avait offert, c'est le livre qui s'appelle Invitation au leadership authentique de Jean-Philippe Mijon. Et sans dévoiler tout le livre, c'est un livre qui est très simple à lire, et c'est pas du tout péjoratif quand je dis simple, au contraire, qui est très abordable. Peut-être et là je vais me permettre de reciter une critique du livre que je trouvais résumer très bien le livre. C'était aider à déployer une vocation plutôt qu'une ambition personnelle. Servir ses équipes plutôt que de s'en servir. Et se transformer soi-même plutôt que de s'imposer aux autres. À nouveau, j'ai retrouvé cette critique et je pense que j'aurais pas pu mieux le résumer. C'est pour ça que je me permets de la citer, parce que c'est vraiment ce que ce livre apprend. Et la question sur la croyance est exactement en ligne avec ça. C'est se dire, mais finalement, quand on est soi-même, quand on est authentique, c'est là où on est le plus fort. Et la compétition, elle est avec soi-même. Elle est pas forcément avec les autres. Donc ça, c'est vraiment ce livre qui m'a plu. Et un livre peut-être un peu plus léger, mais tout aussi important, on en a parlé également, c'est La parole est un sport de combat, de Bertrand Perrier, qui explique à quel point, j'aimerais beaucoup le rencontrer d'ailleurs, je ne sais pas s'il nous écoute, mais parce que je trouve que c'est passionnant.
Tu sais que je l'ai interviewé sur le podcast.
Je sais, c'est pour ça qu'il sait. Il sera certainement, je l'espère, encore fidèle.
Pourrait lui envoyer un petit message.
Et c'est vrai que c'est un livre qui m'a beaucoup plu, parce qu'il dit lui-même justement comment la parole peut être perçue comme une arme négative à la base, quand on en a peur. Quand on a peur de l'apprendre, et tu me parlais de la jeunesse, et c'est vrai que j'étais considéré certainement comme timide et un peu introverti, mais une fois qu'on s'en rend compte, c'est un jeu aussi. Et c'est un plaisir tellement immense, et à nouveau, on en revient, tout est lié finalement dans cette discussion, mais on en revient en théâtre, et résoudre une situation, c'est aussi en étant sincère, mais y mettre la forme, comprendre les mots justes à trouver, et parfois dans des langues étrangères, ce qui est évidemment un défi supplémentaire. Et je trouve que c'est très chouette, rien que dans le titre, ça donne déjà envie de lire, mais La parole est un sport de combat.
C'est un très bel ouvrage que je recommande aussi. Et pour les personnes qui ne nous ont pas écouté, évidemment, allez écouter cet épisode avec Bertrand Perrier, qui est un ancien grand timide introverti, qui a quand même fait de cette faiblesse une force, puisqu'il est maintenant l'une des références mondiales de l'éloquence.
C'est ça. Et c'est pour ça que voilà, j'aimais le citer également, parce que c'est vrai que c'est quelque chose, un livre qui m'a aussi inspiré.
Je te remercie mille fois Thomas, c'était passionnant. Peut-être le fin mot de cette histoire, ça serait assez simplement de te demander où est-ce qu'on peut te retrouver. Alors évidemment en suivant le Burgenstock sur tous les réseaux sociaux, je peux imaginer, en venant peut-être te voir aussi au Burgenstock.
Avec grand plaisir, même si j'aime à dire que ce ne sera heureusement pas moi qui suis mis en avant sur nos réseaux sociaux, mais nos équipes.
Bien sûr.
Parce que c'est toujours un travail d'équipe. Par contre, en effet, ne pas hésiter à me demander lors d'une visite au resort, je suis souvent présent. Et si je ne suis pas, on me transmettra le message et je réponds toujours personnellement à nos invités qui cherchent à me contacter. Et sinon, en effet, sur les réseaux sociaux, d'un point de vue privé, Instagram, mais surtout d'un point de vue professionnel, LinkedIn, Thomas Goval, G-O-V-A-L.
Donc tu acceptes que je mette le lien vers le compte Instagram et le compte LinkedIn?
Avec plaisir.
Eh bien, très bien. Je te remercie mille fois, Thomas.
Merci beaucoup, Pauline.
Bye bye les amis, c'est la fin de cet épisode, mais avant de vous quitter, quelques détails en plus. D'abord, pour toutes les infos sur le podcast et cet épisode, ça se passe sur paulinegno.com, vous aurez tout promis, juré. Aussi, si vous souhaitez me contacter pour me poser des questions, me proposer de nouveaux invités, eh bien n'hésitez pas à le faire directement sur LinkedIn, Instagram ou YouTube, je vous attends. Enfin, encore mille merci de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère de tout cœur que ça vous a plu et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.